chers auditeurs et bonjour Anne.
Bonjour Maria.
Vous écoutez Clé de Sol, programme consacré à la musique classique. Et aujourd'hui, nous allons parler de musique classique, bien évidemment, mais pas que.
Et quelle idée tu as encore eue, Maria ?
Mettre en relation la musique avec la peinture ?
Tu as toujours de bonnes idées.
Merci. Tu sais, je passe du temps pour la préparation de mes émissions. C'est super comme thème, je trouve, et je vais vous le démontrer. N'est-ce pas qu'il existe pour chaque courant musical un courant pictural en parallèle ?
C'est-à-dire des détails, s'il te plaît.
Par exemple, le romantisme s'exprime par la musique, mais aussi par la peinture, de même que le baroque. La peinture et la musique sont des arts qui invitent à l'émotion, non ? Se plonger dans une musique ou contempler un tableau sont des activités similaires, non ?
Si tu veux. À savoir que dans la classification des sept arts, il est vrai que la peinture est le troisième art et la musique le quatrième art.
Justement, ça me fait penser à une citation de Gilles Deleuze, grand philosophe français contemporain. La musique commence là où se termine la peinture.
Bon, d'accord, tu as gagné. Mais maintenant, reste à savoir comment est-ce que tu vas nous raconter tout ce méli-mélo.
T'inquiète, je gère. Et pour commencer, je vous propose un court extrait d'une œuvre de Vincent d'Indy. Je vous expliquerai plus tard pourquoi le choix de ce compositeur, hélas, tant méconnu.
Tu es allé chercher au fin fond de la musique classique. Et pourquoi ça ?
C'est parce qu'à présent, je vais vous parler du peintre Henri Fantin-Latour.
Peintre français né en 1836 et décédé en 1904. Il fait partie du courant réaliste.
Et il a notamment peint, en 1885, une huile sur toile qui nous intéresse particulièrement. Il s'agit du tableau « Autour du piano ».
Petite description pas évidente à faire à la radio.
C'est pour cela que nous vous mettrons les tableaux évoqués sur la page web de Clé de Sol, du site de la radio.
Oui, très bien. Alors, imaginez 8 personnages autour d'un piano qui admirent, si l'on peut dire ainsi, la musique de Richard Wagner.
Il faut rappeler qu'il est mort en 1883. Sa disparition a suscité une très forte émotion. On a alors surnommé cette masse d'admirateurs les Wagneriens. Le rapport peinture-musique est marqué par cette peinture classée wagnérienne. Mais revenons, si vous le voulez bien, à nos 8 personnages. Debout se tient Antoine Lascaux, magistrat français. C'est lui qui a initié le premier cercle wagnérien.
Et à ses côtés, tout à droite...
Vincent d'Indy. Voilà la raison de mon choix pour cette musique d'ouverture.
Mais ce n'est pas tout.
Ah si, se trouve Ed, mon maître, musicien.
Et enfin, au piano, Emmanuel Chabrier.
Et Emmanuel Chabrier, un compositeur français, lui aussi peu, voire pas connu du tout. Pourtant, il a une œuvre qui mérite qu'on y prête plus d'attention, d'autant plus qu'elle apparaît dans un autre tableau.
Ah bon, et lequel ?
Il s'agit d'une peinture d'Edgar Degas, un autre peintre, cette fois-ci du courant impressionniste, et un peu plus célèbre.
Et cette toile a pour nom ?
L'Orchestre de l'Opéra, peinte vers 1868-69.
On y voit un orchestre, des danseuses, et regardez qui se tient au fond en haut à gauche, dans une loge.
Devinez !
Emmanuel Chabrier.
Eh oui, encore lui. Autant vous dire que c'était une grande figure de la musique de cette époque. C'est pour cela que je vous propose de découvrir un extrait d'une œuvre d'Emmanuel Chabrier, intitulée « Espagne », tout simplement. Cela ne vous dérange pas, nous allons faire un bond dans le passé.
Pour atterrir en pleine fin du XVIe siècle avec une peinture de...
Caravaggio. Bon, son nom complet est Michelangelo Merisi Caravaggio.
Et la peinture qui nous intéresse est...
L'huile sur toile intitulée Le joueur de luth, réalisée entre 1595-96.
Nous y voyons un homme aux traits féminins qui joue du luth.
C'est un instrument baroque qui ressemble à une petite guitare, mais avec plus de cordes.
À sa gauche se trouve une nature morte, des fruits, des fleurs et des légumes.
Qui caresse les pages d'une partition surprenante.
Le dessin des notes est si précis que l'on peut déchiffrer la mélodie.
Il s'agit d'un madrigal de Jacquet de Berchem. Des madrigaux sont des œuvres profanes qui sont normalement destinées à être chantées. Mais ici... Comme vous pouvez vous en douter, la mélodie a été adaptée pour le luth.
Merci pour ces précisions, mais revenons à notre Jacquet Berchem, né en 1505 et décédé en 1567. C'est un compositeur franco-allemand. Il est surtout connu en Italie vers le XVIe siècle, donc juste après sa disparition.
Je vous l'accorde, ce compositeur n'est pas des plus connus, mais ça fait du mal à personne d'en découvrir un de plus. Donc, place à Jacquet Berchem avec son œuvre « O Jésus-Christe ». C'était « Ô Jésus-Christ » de Jacques Berchem. À présent, pour que tout le monde soit content, nous allons nous rapprocher de notre siècle avec une peinture de Kandinsky, grande icône de l'art abstrait.
J'adore ! Il s'est prêté à un exercice complètement différent à celui des autres tableaux que nous vous avons présentés.
C'est après avoir assisté à un concert de plusieurs compositions de son ami Arnold Schoenberg, comme les quatuors à cordes opus 7 et 10 et les trois pièces pour piano opus 11, qu'il se met le lendemain à peindre un tableau intitulé « Impression 3 ».
Au premier abord, excusez-moi l'expression, il ne ressemble à rien.
Et c'est normal.
Ce que Kandinsky a voulu faire, c'est matérialiser et représenter à travers une huile sur toile une expérience auditive.
Le résultat ? Un tableau avec un amas de couleurs un peu partout. Une grande tache noire tirant vers le vert donne une allure vaguement figurative au piano. Les taches jaunes peuvent faire allusion au son des trompettes.
En bref, Kandinsky est l'inventeur d'une sorte de palette musicale.
Un nouveau langage qui traduit les notes en couleurs.
À la fin, c'était pas une si mauvaise idée de mettre en parallèle la peinture et la musique.
Mais j'ai toujours de bonnes idées, Anne.
Tu reprends comme la dernière fois la grosse tête.
Pardon. Bon, nous n'avons pas encore parlé de Schoenberg. En bref, c'est un compositeur contemporain qui a vécu de 1874 à 1851. Il a composé en grande partie des œuvres atonales et sériales. Il utilise souvent la technique du dodécaphonisme. Bref, plein de trucs très bizarres qui se résument à l'écoute d'une œuvre.
Hé Maria, moins vite, j'ai pas tout compris là.
Mais on n'a pas le temps, Anne.
C'est vrai, tiens, ça fait un moment qu'on parle. Pourquoi ne pas prévoir l'explication dans un prochain épisode de Clé de Sol ?
Bonne idée. En attendant, nous serons de retour le jeudi 8 novembre à 14h05, toujours en direct. N'oubliez pas d'aller sur le site www.radio-lfb.net, vous abonner à mon émission et les réécouter à l'infini. Maintenant, place au quatuor à cordes de Schoenberg. Au revoir.
Au revoir, Maria.